Et pour aborder le thème de ce jour, sur Paul et les femmes, en fait, Paul est-il misogyne? J'aime pas trop ce mot, mais bon, faut bien en trouver un, donc... sur Paul et les femmes, donc, trois textes de Paul, très connus. Et les deux premiers sont d'ailleurs pratiquement systématiquement convoqués ou même brandis en étendard quand on réfléchit sur la place de la femme dans l'Église. Donc le premier, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11. Imitez-moi, comme moi-même j'imite le Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, en retenant les traditions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez. La tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou qui parle en prophète, la tête couverte fait honte à sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, la tête non couverte fait honte à sa tête. C'est comme si elle était rasée. Si une femme ne se couvre pas, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et s'il est choquant qu'une femme ait les cheveux coupés ou rasés, qu'elle soit couverte. Un homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en par vous-même. Convient-il qu'une femme prie Dieu alors qu'elle est découverte? La nature elle-même ne vous enseigne, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter des cheveux longs alors que pour la femme c'est une gloire? Car déjà, sa chevelure l'habille. Mais si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Ensuite, toujours dans la première lettre de Paul, mais au chapitre 14, à partir du verset 36. Que faire alors, mes frères, lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif? Si l'on parle en langue, deux ou trois fois tout au plus, et à la suite, qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Si un autre assistant a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous parler en prophète, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou bien est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se considère comme un prophète ou un être spirituel, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'est pas reconnu. Ainsi donc, mes frères, aspirez à parler en prophète, sans empêcher qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement dans l'ordre. Car vous êtes tous, et ensuite, dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, à partir du verset 26. Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors l'apôtre Paul, a assez souvent mauvaise presse, en particulier pour ses positions par rapport aux femmes. Alors c'est vrai que si on lit comme ça, c'est pas extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, mais pourtant je pense qu'il faut, et puis c'est ce qu'on fait ici en général, faut jamais lire en surface, faut toujours essayer d'en apprendre un peu plus, d'essayer de voir plus loin. En réalité, lorsque Paul écrit ses lettres, sa préoccupation n'est pas du tout de normer de manière immuable les relations entre les femmes et les hommes, ou les relations ou la place de la femme dans l'Église, dans la communauté, pour les 21, 22, 23 siècles à venir. En réalité, Paul cherche avant tout à construire une Église fondée sur le Christ, fondée sur la croix aussi, cette parole de la croix et de la résurrection du Christ. Et pour ce faire, il a besoin que cette parole qui commence déjà à se déployer dans les communautés et au-delà, que cette parole soit audible. Aussi, je suis persuadée que c'est une erreur complète de lire Paul en fonction de nos débats d'aujourd'hui. D'ailleurs, les écrits bibliques, et pas seulement ceux-là, sont des écrits qui s'inscrivent profondément dans un contexte, dans une culture. Alors, c'est pas pour ça non plus, c'est toujours très compliqué, il y a toujours une tension, qu'il faut s'adapter tout le temps à la culture ambiante. Mais il faut déjà, en premier, essayer de décontextualiser, en quelque sorte, ce que nous pouvons entendre. Ils s'inscrivent dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et pour extirper donc une parole de vérité pour aujourd'hui, il ne faut pas oublier donc cet enracinement. Il va falloir faire, en quelque sorte, un toilettage. C'est vrai en ce qui concerne les femmes, mais vous savez, c'est vrai en ce qui concerne tous les sujets. Et aujourd'hui, tous les débats de société qui traversent notre société, que ce soit l'homosexualité, la fin de vie, la famille, il faut lire attentivement et chercher en fait ce qu'il y a profondément au cœur des Écritures. Aussi, je vous propose, dans un premier temps, de nous intéresser donc à ces textes de Paul qui parlent de la femme, mais également à travers cette réflexion à propos des femmes, je voudrais que vous entendiez en quelque sorte une invitation à lire autrement, à lire les textes autrement, et aussi une invitation du coup à vivre autrement. Alors, certes, aujourd'hui encore, bon nombre brandissent ces textes de Paul, pour aborder le rôle des femmes dans l'Église. Et puis, nous les avons entendus et entendus. On les connaît depuis des siècles, on les a répétés abondamment, si bien, et d'ailleurs je trouve que ça manque pas d'un certain humour, c'est assez paradoxal, qu'en recommandant aux femmes le silence, Paul, probablement sans le savoir, a été à l'origine d'un bavardage incessant de la part des théologiens qui, soit dit en passant, jusqu'à une période récente, étaient uniquement des hommes. Il est vrai qu'à l'écoute de ces deux passages, il ne se présente pas sous le jour du défenseur du droit des femmes. Mais ce n'est pas vraiment son propos, de toute façon. Je vous invite donc à une petite enquête pour faire le point sur ce qu'il en est. Alors, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas rester en surface des textes. D'ailleurs, Paul lui-même, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous invite justement à ne jamais rester en surface des textes. Parce que Paul, de temps en temps, il peut sembler un peu rébarbatif, mais c'est quand même grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et puis, il y a du souffle dans ce qu'écrit Paul. Il y a du souffle, c'est-à-dire de l'esprit. Et Paul nous invite justement à vivre de cet esprit, à vivre et à lire selon cet esprit. Et il nous dit à nous tous, d'ailleurs, hommes et femmes, là il y a sans distinction, nous sommes ministres de la Nouvelle Alliance. non pas celle de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc ce qu'il nous invite à faire, c'est justement chercher cet esprit vivifiant. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce qu'on demande, cet esprit, avant chaque lecture biblique, puisque nous faisons ce qu'on appelle la lecture, la prière d'illumination qui nous demande, parle que l'esprit nous illumine, cet esprit de Dieu qui nous empêche de nous en tenir à la lettre qui tue. Alors d'abord, vous avez pu vous en apercevoir, je ne me suis pas vraiment soumise à l'injonction de l'apôtre Paul et je parle. Mais alors, j'avoue que avant d'entendre ces textes, mais j'ai parlé avant de comprendre ces textes d'ailleurs, avant même de les connaître, on peut dire. J'étais élevée dans une église où les femmes ont toujours parlé, donc ça ne me posait aucun souci. Alors, ce que je vais essayer avec vous, c'est d'abord de décontextualiser donc les textes de Paul, et puis ensuite je vais essayer un peu de voir un peu ce que Paul dit ailleurs et ce que Paul fait aussi. Quel est ce lien avec les femmes? Parce que ça aussi c'est assez important et en général on l'oublie. D'abord dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, il est question de la tenue des femmes qui prient et qui prophétisent. D'abord, je voudrais noter ça, c'est-à-dire que pour Paul, il n'y a aucun obstacle à ce que les femmes prient, ni même à ce que les femmes prophétisent. Donc on voit qu'il leur donne des capacités, des possibilités qui n'étaient pas celles probablement qu'elles avaient avant. Ces gestes de plein droit ne sont d'ailleurs pas remis en question. Le texte nous parle des vêtements des femmes. Eh bien oui, à l'époque de Paul, les vêtements des femmes n'étaient pas les mêmes que ceux des hommes. Bon, maintenant c'est un peu plus indifférencié, mais enfin on s'habille quand même pas tout à fait pareil. On ne va pas dans les mêmes boutiques pour s'habiller. Donc il y a en effet une différence. Alors là, toutes les Bibles, lorsqu'ils traduisent ce passage, alors que le mot n'est jamais proposé, lorsqu'on nous dit que les femmes doivent se couvrir la tête, rajoute le mot « voile ». Alors, en effet, probablement d'ailleurs que c'était un voile que les femmes se mettaient sur la tête pour se couvrir la tête. Mais en fait, pourquoi rajouter un mot alors que dans le texte, il n'y est pas ? En fait, c'est le vêtement des femmes. Elles portaient un vêtement qui couvrait également la tête à l'époque. Elles avaient les cheveux longs, mais je vous dis qu'à l'époque, on ne se lavait pas les cheveux tous les jours comme on pourrait le faire maintenant. Donc le voile servait aussi à se protéger de la poussière et de la saleté. Le voile, il avait des fonctions assez importantes à cette époque-là. Et les femmes de bonne société, entre nous soit dit, portaient un voile. Il paraît, mais ça reste à vérifier, que seules les prostituées ne portaient pas de voile. Donc finalement, quand Paul demande aux femmes de porter un voile, il ne leur demande pas de s'asservir devant les autres, mais en quelque sorte, il leur demande de se conformer aux coutumes du temps. C'est pas la peine. Probablement, s'il le demande, c'est qu'il y avait quelques femmes qui avaient tendance à se dévoiler. Il leur dit, non, finalement, vaut mieux être dans l'air du temps. Je pense que c'est d'ailleurs un souci de Paul et de ses successeurs, c'est d'avoir cette parole audible et de se présenter de manière bien, comme étant quelqu'un de bien. Les premiers chrétiens étaient très critiqués. Donc il fallait prouver en quelque sorte que les chrétiens n'étaient pas des gens à part. Bien au contraire, que la parole de l'évangile, le message de l'évangile, qui est un message d'amour, était quelque chose qu'on pouvait partager et que les chrétiens étaient des gens de bien. Et pour se présenter comme des gens de bien, il faut un minimum se conformer aux coutumes de l'époque. Et finalement, vous l'avez entendu, il parle des femmes, mais il parle aussi des hommes. Les hommes, eux, n'ont pas le droit de se voiler. Donc il établit bien une distinction entre les femmes et les hommes. Et puis finalement, il n'y a pas si longtemps, les femmes portaient encore des chapeaux dans les églises. Moi, quand j'étais petite, les femmes avaient des chapeaux. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans les églises italiennes, il faut encore se couvrir la tête. Alors, ce n'est pas toujours simple quand on rentre dans une église. Donc, on voit que finalement, c'est une sorte de marque de respect pour Dieu. Voilà. Certes, Donc, il ne faut pas se tromper dans l'interprétation. C'est également vrai en ce qui concerne le silence des femmes dans l'Église, puisqu'à l'époque, ce n'est pas l'Église, mais enfin dans les communautés. Paul appelle les femmes donc à se taire. Donc, il appelle les femmes à se taire, c'est donc en réalité qu'elles doivent parler déjà dans ces communautés. Faut toujours essayer de lire les textes aussi en miroir, parce que quand on reproche quelque chose ou quand on annonce quelque chose, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se place. En fait, Paul s'adresse dans ces deux textes aux Corinthiens. Et ces Corinthiens, on le sait, ils sont très zélés, ils sont pleins d'enthousiasme. Alors, ils sont devenus chrétiens et ils veulent le faire avec ferveur, avec enthousiasme. Paul essaye de les tempérer un peu. Oui, eh bien, faut vous habiller un peu correctement, y compris dans les assemblées. Et puis, il faut peut-être que les femmes parlent pas trop dans les assemblées non plus, parce que, d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un discours, tout ce discours, qui essaye de régler, de réguler la parole. Visiblement, dans ces communautés, tout le monde voulait parler en langue, tout le monde voulait prophétiser, il fallait normer un peu tout ça. Puis on voit bien que le culte aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement normé, il n'y a que moi qui parle. Bon, vous pouvez à la sortie me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais a priori, il n'y a que moi qui parle. C'est comme ça que ça se passe maintenant. On peut le remettre en cause aussi. Mais donc, Paul essaye de tempérer tout ça. Et il tempère en même temps, en fait, la parole des femmes. Alors, en même temps, lorsqu'il dit ça, il dit que les femmes sont dans la communauté. Or, jusqu'à là, les femmes n'avaient pas la même place que les hommes dans la communauté. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas mélangées sur les bancs comme vous êtes mélangées aujourd'hui. Les femmes étaient derrière et encore derrière. Elles n'entraient pas. Donc il y a déjà quelque chose là, au niveau de la place de la femme, qui est une avancée. Et puis il trouve ça tout à fait normal. Et puis le texte d'ailleurs se termine par cette injonction, une chute en quelque sorte. Mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Et en effet, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut que les choses soient convenables. Parce que quand on choque trop, la parole ne passe plus. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que j'expérimente encore dans mon ministère d'aumônier de prison. Alors en prison, il y a des protestants, il y a une frange évangélique du protestantisme qui a beaucoup de mal avec le ministère féminin. Alors, mon première envie, ça serait de dire, bon, écoutez, vous lisez mal les textes, voilà, Paul a dit ça, mais en réalité, il dit ça. Et puis finalement, le ministère féminin, aujourd'hui, dans notre société, après tout, il y a des femmes ministres de la République, donc il peut y avoir des femmes ministres du culte, et puis voilà. Seulement, je ne pense pas que je serai écoutée. Et en fait, là, il y a tout un travail. C'est vrai que par rapport à ces femmes et ces hommes détenus, le ministère féminin ne va pas de soi. Alors, il y a un gros travail, un travail d'écoute. Ils acceptent tout à fait que je vienne en cellule et que je prie avec eux. Mais de là à faire un culte, un travail aussi avec mes collègues qui sont pasteurs de ces communautés. Finalement, ce que j'ai envie, ce n'est pas à moi de me mettre en avant, mais c'est que la parole que j'ai à partager puisse être entendue. Donc, si je l'impose, personne ne l'entendra. Et à l'époque, si une femme parlait au milieu de la communauté, personne ne l'aurait écoutée. Donc finalement, ce n'est pas la peine de parler. Si on ne vous écoute pas, eh bien, mieux vaut se taire. Et je pense qu'il y a de cela aussi dans le discours de Paul. Aujourd'hui encore, eh bien, j'ai à affronter ça. C'est assez intéressant. Puis quand on avance pas à pas, c'est vraiment aussi une bénédiction de voir qu'on peut écouter, être écouté et avancer ensemble. Même, c'est vrai, parfois ça ne va pas aussi vite. Je suis peut-être trop enthousiaste, comme les Corinthiens. Et puis ça me ramène à la réalité et ce n'est pas si mal. Donc on voit que finalement, il faut essayer de s'inscrire, nous aussi, dans notre contexte, tout comme Paul s'est inscrit dans ce contexte. Paul, ce serait une erreur, je l'ai dit, ne parle pas du rôle ni de la place de la femme dans la société. Il veut que les nouvelles communautés s'organisent, qu'elles s'organisent bien, que la parole puisse sortir de ces communautés, puisse être reçue à l'extérieur. Et bien pour ça, il faut être un minimum convenable, comme il dit. Dans un autre passage, il dit « tout est permis, mais tout n'est pas nécessaire. En fait, oui, tout est permis, mais il faut que l'autre puisse l'entendre. Et d'ailleurs, je voudrais remettre dans un contexte plus large, et puis après j'élargirai encore à tous les écrits de Paul, entre 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14, puisque c'est les deux textes que j'ai lus, qu'est-ce qu'il y a ? 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13. Bon, ça, vous avez, au niveau des chiffres, vous savez. Mais 1 Corinthiens 12, c'est toute la réflexion de Paul sur la complémentarité dans l'Église, où il prend l'image du corps, Nous sommes le corps du Christ, tous différents les uns des autres. Voilà, certains sont le doigt, d'autres sont la jambe, la tête, les pieds, enfin bon, on a tout ça, et puis tout ça est interchangeable. Nous sommes tous différents, mais tous complémentaires. Il y a de ça aussi chez Paul, toujours. Il est toujours sur une ligne de crête, en réalité, qui fait que, eh bien, il annonce quelque chose qui peut être reçu, et en même temps, c'est toujours difficile. Alors, on est tous complémentaires. Vous l'avez entendu aussi dans ce passage de l'Épître aux Galates, quand il dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Mais j'y reviendrai. On est tous complémentaires. Mais pour réussir cette complémentarité, il y a une voie royale. Et cette voie royale, c'est la voie de l'amour. Et il va écrire ce magnifique hymne à l'amour qui est le 13e chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et il nous décline tout ce qu'on n'est pas quand l'amour n'est pas là. Quand l'amour n'est pas là, on n'est rien. Et puis, tout ce qu'il peut arriver avec l'amour, tout ce que l'amour n'est pas non plus, et tout ce qui reste, eh bien ce qui reste, comme il le dit, c'est la foi, l'espérance et l'amour. C'est pas les réflexions sur la place de la femme ou de l'homme ou de je ne sais quoi dans la société. Ce qui reste, c'est l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et c'est ça, à mon avis, la mesure qui fait qu'on peut réfléchir sur qui a le droit de parler, qui a le droit de s'exprimer, et puis qui peut-on accueillir, pas accueillir, qui peut-on marier, pas marier, qui peut-on, que faire avec les personnes qui sont en fin de vie. La mesure, c'est l'amour. Et ce n'est pas toujours facile parce que là, on pourrait réfléchir et prêcher sur qu'est-ce que l'amour pendant des années et des années. Mais cette mesure, c'est l'amour. Et c'est bien ça aussi qui est très important chez Paul. Parce que Paul, d'une part, il, contrairement au Christ, il va construire une église. Donc il faut bien se batailler, dire ce qu'il faut faire, pas faire dans la communauté. Mais il donne du souffle à tout cela, bien plus de souffle. À travers, que ce soit ce passage où il dit que la lettre tue et que l'esprit fait vivre, cet hymne à l'amour, ou encore lorsque dans Galates, il nous dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ, les distinctions ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus de hiérarchie, même s'il y a distinction, il n'y a plus de hiérarchie en Jésus-Christ. Mais la société, elle est différente. Et on vit dans la société. Et il faut bien que l'Église s'adapte à la société. Toute la difficulté, c'est pas de se laisser pervertir par la société. Mais il faut bien essayer de contextualiser notre discours, de le rendre plus audible. Alors aujourd'hui, oui, il faut dépoussiérer certaines choses, et pas seulement la place dans l'Église, mais aussi notre patois de Canaan, essayer de trouver un vocabulaire que tout le monde puisse entendre. Tout cela, ce sont des défis tout au long des temps pour l'Église. Et je voudrais terminer avec les relations de Paul avec les femmes. Parce que Paul, dans son ministère, il est toujours avec des femmes, un peu comme Jésus. Alors Jésus, il n'a rien dit trop sur les femmes, mais il a toujours été accompagné de femmes, suivi de femmes. Pratiquement tous les événements les plus importants dans la vie du Christ sont avec des femmes. La première femme apôtre, c'est Marie-Madeleine, qui l'envoie dire aux autres, aux disciples, qu'il est ressuscité, qu'il est relevé d'entre les morts. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de cette problématique dans les évangiles. Mais Paul, lui, il construit cette église, comme je vous l'ai dit, et il fait bien la distinction en ce qu'on est devant le Christ et comment on doit se comporter dans la société. Et lui, donc, il a de nombreuses femmes autour de lui. Particulièrement, on les retrouve dans le 16e chapitre de l'Épître aux Romains. De nombreuses femmes sont nommées. Et même des femmes, Junia, qui prophétisent, je vais vous dire, et qui sont même apôtres, qu'il nomme apôtres. C'est à tel point inaudible, parce que je pense que c'est pas Paul, en fait, qui a des problèmes avec les femmes, c'est la tradition. C'est que dans la plupart de vos Bibles, sauf les plus récentes, eh bien, cette Junia devient un homme, alors que dans le texte grec, elle est vraiment une femme, et que nommée comme apôtre par Paul. Donc, on voit bien que le problème de Paul n'était pas de savoir si les femmes devaient parler ou pas pendant tout le reste de l'organisation de l'Église. Et puis d'ailleurs, l'Église, elle n'est plus comme au temps de Paul. Et puis, elle, dans plusieurs siècles, elle sera encore différente. Et tant mieux. Donc, ce qui m'interpelle et ce que je voudrais qu'on puisse comprendre là, c'est justement quel est le message qui est au cœur de l'Évangile, au cœur de la Bible. En fait, ce n'est pas tant de savoir quel est le rôle ou la place des femmes dans notre société, mais bien plus d'apprendre à lire, de se laisser interpeller par cette parole qui nous demande de vivre selon l'Esprit, qui nous demande justement de recevoir cet Esprit de Dieu qui nous illumine et qui nous permet de nous retrouver, enfin tout du moins d'essayer de nous retrouver dans un monde qui bien trop souvent est obscur. Comment se comporter ? Comment se comporter de manière individuelle ? Quelle doit être la parole de l'Église dans le monde ? Parce que j'en suis persuadée, il faut que l'Église parle dans le monde. C'est un vrai défi. Et pour accepter ce défi, il faut se laisser vivifier par l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre.